première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Ce n'est pas un numéro anniversaire, mais ça préfigure tout de même 20 ans de parution l'année prochaine, en fait.
L'art même, numéro 75. Cinéma et art contemporain. Avec Christine Jama. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, va s'inquiéter.
C'est une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach. Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
authentique me tanto comme tantantantantom stélé.
Le monde invisible.
Et ce 75e numéro a pour quai principal la question du cinéma.
Elle n'est pas nouvelle, mais elle me semble de plus en plus d'actualité, effectivement. Lors de mon retour de la Biennale de Venise et de la dernière Documenta de Cassel, ce qui m'a frappé fut de me retrouver devant des pièces cinématographiques, d'un format cinématographique et d'une exigence de production cinématographique que j'ai trouvé de grande qualité et qui finalement participait largement des œuvres qui m'avaient le plus touché, le plus intéressé. D'où ce retour sur ces rapports croisés entre cinéma et art contemporain. Je dis bien croisés, puisque ces modes d'influence fonctionnent aussi de manière inverse, c'est-à-dire que je pense que l'art contemporain inspire de plus en plus aussi les pratiques cinématographiques.
L'art même, numéro 75. Cinéma et art contemporain. Avec Christine Jamard.
L'enregistrement du réel, la mise en récit, le recours à la fiction sont autant de questions, évidemment, qui travaillent l'œuvre d'art contemporain.
L'art même, numéro 75. Cinéma et art contemporain. Hommage à Thierry Zeno, 1950-2017, et hommage à Chantal Akerman, 1950-2015.
Le pavillon grec, avec le film de Georges Drivas, Le laboratoire des dilemmes, un film labyrinthe, un film que l'on découvre dans la pérégrination d'un labyrinthe, qui est basé en fait sur une pièce d'Eschyle qui s'appelle Les Suppliantes, qui met évidemment de manière ici complètement fictive, qui nous plonge au sein d'un laboratoire où la question est d'accepter ou non de nouvelles cellules en cours de recherche pour éradiquer une maladie du foie. Nouvelles cellules qui donc peuvent faire avancer la recherche, mais à la fois pourraient corrompre les cellules originelles. Donc évidemment, c'est la question de l'étranger. Faut-il l'accueillir? Voit-on cela évidemment comme une richesse ou campons-nous dans une position de retrait, de crainte, dans une position stérile? Le film ici laisse le spectateur dans une question ouverte. Il se termine par une confrontation avec tous les protagonistes du laboratoire où chacun émet son avis sans que la décision finale ne soit prise.
Hommage à Thierry Zeno, avec les voix de Agnès Varda, Muriel Andrin et Thierry Zeno. Hommage à Chantal Akerman, avec les voix de Bardebar, Raya Bottinet-Lindberg et Chantal Akerman. L'art même, cinéma et art contemporain, par Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Céline Jamard, quittons Cassel, quittons Venise pour revenir à la revue que vous dirigez, dont vous êtes rédactrice en chef, L'Art Même, qui consacre son numéro central sur...
Donc la question était de se poser la question de l'esthétique cinématographique dans les pratiques artistiques actuelles et de voir s'il y avait également un effet retour. Donc si l'art contemporain pouvait également informer le cinéma actuel. La chose n'est pas neuve, évidemment. Ici, il ne s'agissait pas de faire un dossier sur le cinéma expérimental, donc le cinéma des années 60, le cinéma des années 70, mais de partir là en 2018 sur ce que recouvrait, sur les raisons et les enjeux aussi de cette recrudescence du cinéma dans les pratiques artistiques.
Christine Jamard.
La chose n'est pas neuve, le cinéma expérimental, le cinéma de la marge, Michael Snow, Johan Mekas, Godard, Garel, tout ça évidemment préexiste.
Je demande à la galerie et qui relaye avec ma production qui s'appelle Ciné Tamaris, que j'ai créé en 54, que c'est toujours la boîte qui m'a servi à faire mes films. Et Tamaris peut envoyer des photos d'autres choses, d'autres installations. Donc vous m'avez abordé en disant que j'étais en patate, c'est parce que ma première installation, qui s'appelait Patate Utopia, c'était trois écrans avec des images, à mon avis intéressantes, de pommes de terre en forme de cœur, qui avaient repris des germes. Vous l'avez vu, cette installation, hein? Vous l'avez vu à Venise, vous? Oh merde, je suis en retard. Ma petite performance, je mets le costume de patate. Je me promène en patate. J'y vais vite, je suis en retard.
Oui, puisque je vous interview. Oui. De venir, je vous disais que j'avais interrogé Agnès Varda et vous me disiez, mais c'est le meilleur interlocuteur que vous puissiez trouver.
Un patate avec les mains et les pieds qui sortaient, ça c'était un peu comme les batteurs d'autrefois, vous savez, pour qu'on vienne à leur spectacle. Donc je me promenais et je me disais que les gens, on entendait des sons de listes de patates. Il y a 400 variétés de patates. Et alors je disais, ça va intriguer les gens, ils vont peut-être, au son, ils vont peut-être aller jusqu'à l'installation qui s'appelle Patate Utopia.
C'est cette pomme de terre que soit à travers le déguisement, c'est la matière, c'est les glaneurs, c'est la pomme de terre de Noirmoutier, c'est donc de nouveau la plage, la mer, et hop, c'est reparti.
Et c'était un début formidable pour moi, parce qu'on m'a invité à cette belle biennale, et à partir de là, je me suis lâchée, parce que j'osais pas avant. Donc maintenant, je suis une jeune artiste.
Et donc avant, vous faisiez déjà des pièces, mais pour vous-même, ou comment cette
oui,
invitation
des fois,
de Hans Holm?
Il y avait déjà une tendance à l'installation dans mes films.
Qu'est-ce qui engage davantage l'art contemporain à s'emparer du cinéma? D'abord, une formation en école d'art, de par le passage à des techniques numériques, évidemment beaucoup plus simples, plus démocratiques, plus légères.
Certains films comme, je sais pas, particuliers comme cette pièce cuisine salle de bain, il y a un DVD de mes courts-métrages qui s'appelle Varda tout court, il y a 17 courts-métrages. Il y en a qui sont vraiment expérimentaux, qui veulent déjà dire des choses que j'ai fait après.
De plus en plus d'écoles d'art analysent le cinéma ou mettent en tout cas le cinéma à l'étude, non pas tant en tant que référent culturel, ce qu'il est, mais aussi en tant que format au travers duquel penser l'image aujourd'hui, penser le récit, penser le réel.
Muriel Andrain, dans le cadre de l'exposition de Thierry Zénot qui se tenait à la Vénerie à Boisfort, vous aviez fait une conférence dont le titre était
C'est pas la tentation plasticienne.
La tentation plasticienne, oui, tout à fait.
Des cinéastes,
parce que l'idée, c'était que je m'interroge par rapport aux trajectoires, justement, réversibles entre le cinéma et les arts plastiques.
Accompagnadas de una gran cantidad de escorias y cenizas que se reparten por todo alrededor. Las explosiones que acompañaron a estos fenómenos. La oscuridad producida por la masa de cenizas. Y el humo que recubre toda la isla forzaron más de una vez a los habitantes de Yaiza a tomar la huida.
Certains ateliers abordent le cinéma et la création cinéma. Évidemment, en France, en 97, est créé le Frénois à Tourcoing, qui a vraiment pour vocation d'amener à l'étude et à la production de pièces cinématographiques en art contemporain.
Cette installation, l'image, je l'ai tournée à Lanzarote. Donc c'est des images de terre volcanique, mais bon, j'ai également filmé de l'eau, des nuages, donc en fait différents éléments. Et ces images défilent sur un masque funéraire qui se trouve dans un coffre.
Und die Dunkelheit durch den Rauch veranlassten die Bewohner von Yaiza mehrmals zur Flucht.
En Suisse, dans plusieurs écoles, des sections cinéma se sont créées au sein des écoles d'art.
Lorsque l'on est à Lanzarote et qu'on veut filmer le site avec le volcan, on est obligé de prendre un autocar touristique, c'est une zone protégée. Et donc, comme bande sonore, j'ai mis la bande-annonce touristique pour les visiteurs du site, qui fait un peu la relation de l'éruption volcanique à Lanzarote.
Und die Dunkelheit durch den Rauch veranlassten die Bewohner von Yaiza mehrmals zur Flucht.
Parce que le fait que ce masque soit mis dans de la paille, dans un corps avec de la paille, et que ce masque est blanc, c'est peut-être un œuf aussi. Hein. Donc à chacun d'y voir un petit peu si c'est la personne qui va éclore ou si c'est déjà la personne qui est décédée.
Au départ, il y a eu une tendance des plasticiens à utiliser le cinéma dans leur travail et qui ont été recherchés des morceaux de films, parfois des photogrammes, donc des expériences, Matthias Müller, Martin Arnold, Douglas Gordon, qui ont utilisé le cinéma vraiment à la fois dans sa spécificité de temps et de mouvement, mais aussi comme citation, donc l'intertextualité, l'idée d'utiliser le cinéma comme une forme d'art qui puisse générer encore quelque chose de différent.
Qu'on entend, c'est donc une des cloches de la cathédrale de Tournai. Et c'est vrai qu'ici, donc, j'ai quatre installations. Alors, se pose toujours le problème du son dans une installation.
Il y a également de nouveaux festivals ou du moins de nouvelles programmations au sein de festivals habituellement dédiés au cinéma.
Alors, lorsqu'il y a différentes installations, il ne faut pas que le son d'une installation interfère ou nuise au son de l'autre. Donc j'avais prévu des choses qui pouvaient éventuellement se répondre. Et lorsqu'on voit le masque funéraire et qu'on entend de temps en temps la cloche qui intervient, c'est un peu comme un plus par rapport à ce que l'on voit là-bas. Et puis on verra de plus loin, il y a une installation qui elle est tout à fait silencieuse. Eh bien, lorsque le son des trois autres installations intervient de manière aléatoire, alors là, je pense que ça ajoute aussi à cette installation qui peut être vue muette également.
Et puis, il y a eu, depuis un certain nombre d'années, une autre tendance que je trouve particulièrement intéressante, qui est cette tendance des cinéastes à aller vers l'art plastique pour trouver, je dirais, une porte de sortie qu'ils ne trouvent plus à l'intérieur du cinéma. Et donc, on a vu des cinéastes... Alors évidemment, c'est pas forcément des cinéastes narratifs, classiques, c'est plutôt des cinéastes, justement, dans la marge et dans l'originalité. Alors, on parlait d'Agnès Varda, mais il y a aussi Chantal Akerman, il y a Abbas Kiarostami. Donc, c'est des gens qui, déjà, dans leurs films, interrogeaient le principe classique de la narration. Et qui voulait proposer autre chose, donc sortir du schéma de raconter une histoire simplement et d'aller vers un rapport au temps, un rapport au mouvement différent. Et ces gens-là, par des circonstances diverses et généralement par des propositions de galeristes ou de musées, se sont retrouvés dans un processus de création qui, justement, leur permettait d'étendre, puisqu'on parle de cinéma étendu, d'étendre leur pratique cinématographique à des lieux qui n'étaient pas les lieux originels, les salles de projection, etc.
Nouvelles maisons de production aussi, qui sont davantage enclines aussi à s'intéresser à des formes hybrides de cinéma, cinéma d'art, entre documentaire, fiction, essai. Forme de l'essai.
Vous-même, Thierry Zénot, vous êtes sorti d'une école de cinéma, vous avez commencé à tourner des films. Qu'est-ce qui vous a attiré vers l'installation, comme vous dites, et alors peut-être définir ce que ça veut dire?
Oui, vous citiez les écoles d'art et je pensais à Thierry Zénot, qui est issu de l'IAD, et qui, tout jeune cinéaste, fait un film, Vase de noces, qui a eu beaucoup de succès, qui nous a quittés l'année dernière, en 2017. Et j'ai pu le rencontrer en 2010, à l'occasion d'une émission que j'avais réalisée autour de ces deux cinéastes, qui étaient Thierry Zénot et qui est Agnès Varda.
Oui, en fait, bon, quand j'ai fait l'IAD, j'avais déjà des préoccupations qui n'étaient pas de faire de la télévision ou du cinéma dans ces normes commerciales. J'étais naturellement attiré par l'avant-garde, par le cinéma expérimental, hein, c'est ce qu'on appelait à ce moment-là les recherches audiovisuelles, ça s'appelait le cinéma expérimental.
Il y avait d'ailleurs un festival.
Il y avait un festival à CNOC, du Festival du film expérimental. Et il y avait d'autres manifestations. D'ailleurs, le cinéma expérimental était quelque chose qui était pratiqué un peu partout dans le monde, mais d'une manière, malgré tout, assez marginale. C'est-à-dire que certains films ne pouvaient passer qu'une seule fois, deux ou trois fois, mais c'était vraiment marginal. Et puis, la plupart des gens qui faisaient ce travail ont abandonné le cinéma pour la vidéo. Le début de la vidéo, j'aimais pas du tout. Tout ce qui était vidéo analogique, les copier-coller, cut-in, cut-out, tout ça, je n'aimais pas. Et je suis resté fidèle au support film. Mais le cinéma expérimental avec le support film allait dans une impasse parce que le laboratoire, la pellicule, tout ça coûtait très cher. Et faire un film expérimental, ça rapporte rien du tout. Donc on a vu disparaître petit à petit le cinéma expérimental sous sa forme filmique et certains se sont lancés dans l'aventure vidéo. Moi finalement, l'aventure vidéo a commencé à m'intéresser lorsque le numérique est apparu, où là je retrouvais alors pas les mêmes outils, mais je retrouvais disons, le même plaisir à manipuler l'image, à monter, que le plaisir que je pouvais avoir dans une salle de montage 16 mm. Et donc, d'une certaine façon, je suis revenu à mes premiers amours qui étaient le cinéma expérimental.
Excusez-moi, on entend du verre brisé, ça nous fait penser à l'exposition d'Agnès Varda. L'avez-vous vue?
Ah non, je n'ai pas vu.
Les miroirs brisés.
Ah oui, elle se trouvait où? Je ne me souviens pas.
À la galerie Obadia.
Ah oui, non, mais je n'ai pas été voir encore.
Et j'ai pu rencontrer, interviewer Muriel Andrin, qui participe de votre revue et qui avait titré elle-même cette émission de la façon suivante. Ça s'appelait « La tentation plasticienne des cinéastes ».
Et ça donne des choses parfois assez étonnantes, parfois pas forcément réussies non plus, parce que c'est très très périlleux, évidemment, de passer de... ce que Roland Barthes appelait le mouvement protensif du cinéma, donc cette idée d'avancée, de chronologie du mouvement cinématographique qui est imposé au spectateur, à cet éclatement de la perception. Et c'est là où je trouve que Varda est très intéressante encore une fois, parce que justement elle a compris cette fragmentation, elle l'avait déjà intégrée, je dirais, elle-même dans ses films et dans sa pratique.
Scène nuptiale, Thierry Zénot.
Alors effectivement, ça peut faire penser aux noces, hein. Au niveau de la texture de l'image, quelque chose qui peut être proche de vase de noces. Donc qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons cinq écrans carrés, mais ces cinq écrans carrés peuvent être un peu comme une fenêtre, comme si nous voyions ce qui se passait derrière le mur. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une texture gris foncé, verdâtre, qui fait penser à la lave. Donc ça fait un petit peu écho avec l'installation « Souviens-toi, on voit le masque funéraire ». Sauf que ici, ce n'est pas de la lave, ce n'est pas un volcan. Ça a l'air d'être un paysage volcanique, ça a l'air gigantesque comme paysage. Mais ce sont tout simplement des flattes de vaches. Et sur ces flattes de vaches, s'ébattent amoureusement les petites mouches, qu'on dit les mouches à caca, les petites mouches jaunes, dans une frénésie de vie, une frénésie qu'on peut même appeler érotique, parce que c'est sans arrêt, je veux dire, elles sautent l'une sur l'autre, mais j'ai filmé ça, à une vitesse normale, mais j'ai utilisé un trucage vraiment simpliste de ralentir l'action. Et donc nous voyons cette frénésie amoureuse ralentie à peu près à du 10% de sa vitesse normale. Et donc tout à coup, ces mouches qui en soi sont assez vilaines deviennent comme des petites fées, deviennent comme des petites âmes, et d'une grâce et d'une volupté extraordinaire. Et lorsqu'elles sautent comme ça d'un partenaire à l'autre, finalement, ça n'a plus rien de dégoûtant. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Pour moi, c'est presque du domaine de l'extase.
Hommage à Thierry Zeno, 1950-2017.
Alors pour Thierry Zeno, c'est un peu différent, parce que c'est quelqu'un qui travaille très très fort sur le temps. Donc il avait déjà étiré... dans son tout premier film, Vase de noces, à 24 ans, en 1974, qui avait déjà étiré le temps de façon assez spectaculaire et qui avait, je dirais, déjà retravaillé la narration classique, au sens classique du terme. Et donc, il avait proposé quelque chose de beaucoup plus poétique et de basé sur quelque chose de symbolique, poétique et d'étirement temporel.
Faisant face à ces cinq petits écrans. Alors là, c'est un grand écran avec simplement une seule image qui se répète. C'est en fait un très très lent zoom avant. On pourrait imaginer au début que c'est une photo puisque tout est immobile. Mais lorsque le zoom arrive finalement en fin de parcours, alors là, on commence à voir s'agiter très doucement le feuillage du champ de maïs. Et alors on se demande si c'est une photo qui se met à bouger, ou mais bon, finalement c'est simplement un zoom avant tourné en vidéo. Et ça, c'est une installation qui est silencieuse, mais qui s'enrichit du son des autres installations.
Et donc ce qui est fascinant dans son installation à la Vénerie, c'est que justement il retravaille de nouveau sur cette extension du temps, puisque ce sont pratiquement tous des plans fixes qu'il nous propose, donc avec vraiment une intégration du spectateur dans cette donnée temporelle de la durée. Évidemment, c'est quelque chose qu'on doit aussi s'imposer en tant que spectateur, donc on va là, c'est aussi intéressant de voir l'interaction entre les lieux et ce qu'il a proposé. Donc il y a un côté très solennel, quasi mystique comme ça qui est imposé. Donc il faut rentrer dans la durée.
Là, donc au début, c'est un plan général, c'est la campagne. Hein, donc on voit l'image divisée en deux, avec la partie terre, la partie ciel. La partie terre avec différentes lignes de feuillage, une image qui peut sembler très abstraite comme ça. Et lorsque on entre donc dans le détail grâce au zoom avant, on perçoit qu'il y a une pierre. Pierre est-elle petite, est-elle grande? En fait, avec les arbres qui l'entourent, on pourrait imaginer que cette pierre est très grande. On pourrait aussi se demander si ce n'est pas les arbres qui sont tout petits. Et En fait, qu'est-ce que j'ai filmé? C'est un menhir, c'est la pierre de Brunehaut qui se trouve dans le Hainaut, pas loin de la frontière française. Et c'est vrai que cette pierre respire d'une puissance incroyable. Mais pour moi, peu importe que ce soit un menhir ou un petit caillou, je pense que là aussi, ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est de voir qu'au fur et à mesure que s'écoule le temps de la vision, la perception de la chose peut changer, peut se modifier.
Et donc il y a ce plan qui dure, je ne sais pas, une dizaine, une quinzaine de minutes, ce zoom vers trois arbres. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre littéralement dans la durée. Donc il n'y a plus de narration au sens classique du terme, mais il y a une véritable expérience de la durée qui se fait sentir par le moyen du zoom et par la technique cinématographique.
Moi, je n'aime pas quand l'art vidéo avec la grosse artillerie et les effets canons, j'aime pas ça du tout. Moi, j'aime beaucoup les choses simples et qui essayent de jouer un peu sur la subtilité de la perception que l'on peut avoir d'une chose lorsque, par exemple, elle est synchrone et que tout à coup après, elle devient muette. Hein, c'est-à-dire ce petit marteau qui frappe sur cette cloche qui a quelque chose d'assez imposant, le son est imposant. Et puis je coupe le son, hein, donc c'est-à-dire l'image reste fixe, et on voit ce marteau qui frappe sans provoquer de bruit. Et tout d'un coup, ce marteau devient dérisoire. Ou alors, comme on l'entend maintenant ici, le son est mis à l'envers, donc le son est synchrone, mais du fait qu'il soit mis à l'envers, et puis qu'il revient à l'endroit, ça donne également une autre perception de l'image elle-même. Après Vase de Noces, j'ai préféré tourner un peu le dos à cette veine expérimentale et à la fiction également, pour me consacrer au documentaire.
Dans l'interview que je fais de Thierry Zénot, il évoque cette façon presque existentielle de parler du cinéma, puisqu'il dit le documentaire, c'est ce qu'il tente de faire, et en plus un documentaire qui est lié à la question de la mort, qui était sa quête. Il dit que faire du documentaire, c'est avoir plusieurs vies.
Le film des morts, disons, le documentaire qui m'a pris beaucoup d'années, qui tout à coup m'a dit, mais la vie est tellement fugace, et dire que nous n'avons qu'une seule vie. Et je me suis dit, peut-être qu'en faisant des documentaires, j'aurai plusieurs vies. Et je crois que c'est un petit peu vrai. Quelqu'un qui tout à coup vit, c'est pas nécessairement un documentariste, hein. Ça peut être une autre profession, hein. Ça peut être dans le domaine médical, de l'environnement, ou un ingénieur, enfin, je dis, peu importe le domaine, mais je pense qu'il y a moyen d'avoir plusieurs vies, à la fois professionnelles, familiales, humaines. Et je trouvais que le documentaire, pour moi, était une manière comme ça de mettre mes pas dans des endroits qui n'étaient pas tracés au départ. Donc, pendant des années et des années, en faisant des films. Très peu de films finalement, j'ai fait très peu de films documentaires, mais par exemple le film que j'ai fait au Mexique, mais le premier film m'a pris 7 ans, Chronique d'un village Tzotzil. Puis je pensais cette expérience mexicaine terminée, et puis quand il y a eu la rébellion zapatiste, là je suis retourné faire un deuxième film, donc je pense que le Mexique pour moi était une partie fort importante de ma vie, enfin pas le Mexique en général, mais ce village d'Indien d'origine maya. Et puis je pense que je suis arrivé un peu au bout aussi de ce que j'avais envie de faire en documentaire. C'est peut-être dû au fait que le documentaire, son public c'est la télévision, et la télévision même du service public étant de plus en plus préoccupé par le taux d'audience, par des problèmes de production, de coproduction, de diffusion. Et il n'y avait plus ce côté expérimental qu'on peut dire dans la manière de concevoir et de réaliser un documentaire. Et je trouvais que je devais laisser ça à d'autres, à des plus jeunes, et peut-être alors donc revenir à mes premiers amours qui étaient le cinéma expérimental avec sa forme actuelle, qu'on peut appeler installation vidéo, ou image numérique, mais dans mon cas, c'est plutôt l'installation vidéo. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre une image sur un écran. J'aime bien créer un contexte, que ce soit à partir d'un objet ou d'une installation, comme le mot le dit bien, je veux dire les cinq écrans qui sont un peu comme des fenêtres. Pour moi, c'est indispensable d'avoir ça. Je veux dire, le mur noir est aussi important que l'ouverture avec la fenêtre.
Anvers, le Mouka, Bardebar, vous dirigez. Vous invitez une artiste d'origine bruxelloise, vivant entre Paris et New York, Chantal Ackermann.
Un être humain de grande qualité. Mais je pense qu'elle nous a donné et continue à nous donner des images contemporaines, des images qui offrent une possibilité d'être en relation avec le monde, une possibilité d'exister, une possibilité assez précise. Et je pense aussi, bien qu'on peut argumenter qu'elle vient d'une très longue tradition, pas seulement techniquement, mais aussi mentalement d'une grande urgence.
Autre exemple, Christine Jamard, en 2012, je vais à Anvers, au Mouka, rencontrer la cinéaste qui fait une installation plastique, qui a fait les choses aussi à Documenta à l'époque. Chantal Ackermann, elle aussi disparue.
Et alors, cette marche dans les mots, tout d'un coup, je me suis dit, ben, elle a résolu dans une certaine mesure son fantôme, quoi. Parce qu'elle me donnait à la fois cette impression d'être lovée avec des mots de quelqu'un qui n'est plus là, dont la seule trace, c'est les mots, hein, c'est sa trace scripturaire. Hein. Et en même temps, donc, d'être à la fois dans un rapport de corps et dans un rapport d'esprit, j'ai trouvé ça très fort parce que votre fantôme, parce que c'est des fantômes, hein, et on a tous, d'ailleurs l'humanité est avec ce fantôme, c'est pas que vous, parce que vous êtes juive et que votre mère aurait été déportée, on a tous ces fantômes, on doit tous les transporter, hein, on les transporte tous. Et là, tout d'un coup, il y avait quelque chose. Alors maintenant, je voudrais pas que ce soit un mausolée, parce que ça figerait les choses. Et c'est...
Je voulais que ce soit fait dans une sorte de légèreté.
Oui. C'est dansé, c'est quand même très dansé, quand même. Hein. Voilà.
Chantal Ackermann, quand vous dites « laisse-la faire ».
C'est ma mère qui dit à mon père « laisse-la faire », en parlant de moi. Faire les films. Laisse-la exister, en quelque sorte.
Et ces films, pourquoi le cinéma ?
Pour exister. Pour ne pas mourir. Je pense que ce qu'attendait mon père de moi m'aurait tué littéralement. Oui. Et ma mère a dit « laisse-la faire oui. ». Parce que mon père était quand même encore... il était né en Pologne, c'était encore l'idée du père patriarche à qui on obéit, qui est la loi. Et ma mère lui a dit, laisse-la faire, laisse-la exister. Si vous voulez. Et il a dit oui. Mais bon, ça, j'ai eu un prix à payer, c'est-à-dire je suis partie à Paris, j'avais 18 ans. Il m'a dit, tu pars, tu fais ce que tu veux, mais tu n'auras pas d'argent, tu n'auras pas un sou. Et donc ça a été assez difficile, quoi. Mais bon. Je ne regrette rien. Et un jour, d'ailleurs, quand j'étais plus âgée, je lui dis « Mais papa, tu n'avais pas peur que, je sais pas moi, que je fasse la pute ou quoi ?» Ou que j'avais rien. Bon, j'ai fait des petits jobs, mais bon, je vivais dans une chambre de bonne sans chauffage. Enfin, ça a été assez dur.
Faim et froid.
Oui, j'ai faim, j'ai froid, oui. Et oui, c'était vraiment ça.
Vraiment ce film, j'ai faim, j'ai froid.
Voilà.
Et vous avez chanté dans les cafés avec une guitare
faire l'aumône. Non. J'ai fait... Mais alors il m'a dit, toi, non. Il m'a dit, et ça c'est fou, il m'a dit, non, j'avais confiance. Donc, ma mère a dit, laisse-la faire. Et au fond, il avait confiance. Mais c'était contre tout son monde, quoi. Mm. Hein? où on allait à toutes les bar mitzvahs et tous les mariages, et quand est-ce que ta fille va se marier, nanana, et mon petit-fils, et regarde, enfin, c'était contre le monde dans lequel il vivait, totalement. J'étais vraiment un ovni. Qu'est-ce que c'est que cette fille que j'ai fabriquée, il devait se dire. Enfin, qui s'est fabriquée. Oui, j'étais un ovni dans ce monde-là. Tout le monde faisait des schmattes autour de nous. Les schmattes, vous voyez ce que c'est, c'était tout le monde faisait des vêtements en cuir, en daim, machin, ou vendait des sacs ou des chaussures. Et bon, j'étais un ovni, quoi. Et en plus, bon, heureusement, il n'a pas tout vu, tous mes films, parce que là, il serait mort sur place.
Cette rencontre entre cinéma et art contemporain s'est faite d'abord, me semble-t-il, par la tentation plasticienne d'un certain nombre de cinéastes, que ce soit évidemment Chantal Akerman.
Et je convoque et j'invite pour rencontrer cet artiste, une autre collaboratrice de votre revue qui a écrit un article dans le cahier qui nous concerne, c'est Raya Baudinet-Lindbergh.
J'étais frappée par cette question de l'écoute, et disons, de voir un film ou d'entendre un film. Et à plusieurs reprises, je me suis trouvée face à une image qui ne montrait pas, mais qui me permettait d'écouter, notamment le témoignage, disons, qui pour moi n'est pas un témoignage entre votre mère et vous, face à un journal qui devient, qui devient finalement l'occasion de se réunir autour de quelqu'un qui n'est plus là, d'échanger, et l'image est floue, de plus en plus floue, et au fur et à mesure que l'émotion aussi entre vous se passe, je trouvais ça très beau d'avoir le son de plus en plus clair et l'image de moins en moins nette. Ça m'a frappée, et cette espèce comme ça de dichotomie qui finalement absorbe le témoignage, parce que du coup c'est plus ni du document ni de la fiction, parce que apparemment la frontière est ténue, parce que je pense qu'il y a quand même toujours une volonté de fictionnaliser, ne serait-ce que par le dispositif, la mise en scène, d'avoir mis la caméra là devant votre mère, ça pouvait pas être
uniquement
du document. Mais de toute façon, moi, je
fais pas de différence entre le documentaire et la fiction.
Juste, tu peux fermer la porte avant que vous continuiez, parce que j'ai le son. Claque la porte. Voilà.
Claque la porte.
Oui, voilà. Donc pour moi, il n'y a pas une vraie frontière entre le documentaire et la fiction. Et dès qu'on place une caméra, et dès qu'on choisit un cadre, on est déjà dans de la fiction.
La question, c'est aussi vidéo ou film. Alors moi, qui ne suis pas une spécialiste de l'image en mouvement, moi, ce qui m'avait plutôt frappé, c'est le format, la qualité de production, de post-production, le jeu d'acteur, l'économie, je dirais la production et l'économie, qui me semble relever du cinématographique, du cinématographique. Et c'est ça qui m'a frappé, c'est de me dire que des artistes n'hésitaient pas à recourir à des formats assez sophistiqués.
Дневничку, мультижурнал, мой чао бы.
Vous avez tellement bien dit les choses sur le...
Est-ce que je me trompe déjà? Est-ce qu'il y a quelque
C'est-à-dire
chose...
C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'intuition. C'est une image qui a c'est été filmée. Intuition. Je suis rentrée dedans. Dans cette image, j'ai refilmé. Et puis j'ai refilmé. Et en jouant, en effet, avec des flous et des nets, etc. Et de ça, c'est la même image, en fait. Ça vient tout d'une même image. Et c'est comme un diptyque. On ne sait jamais à quel moment il y a la séparation entre les deux images, parce que c'est comme si elles jouaient l'une avec l'autre. Ouais. Si ça vous a permis de mieux entendre, moi je suis très très heureuse.
Est-ce que vous n'intervenez pas, Chantal Akerman, dans une émission qui était consacrée à la Cinémathèque Royale, où vous dites que vous êtes nourrie par les films qui sont projetés là, par la fréquentation?
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai été voir la Cinémathèque à un moment donné. Bon, malheureusement, maintenant, je ne vis plus à Bruxelles et donc je ne vais plus jamais à la Cinémathèque. Mais c'était un moment avec le Doux et même avec Gabriel, qui était un moment fort dans ma vie. Mais ça, c'était avant que je parte, avant de rentrer à l'INSAS, en fait.
Vous êtes allé à l'INSAS?
3 mois. Et puis je suis partie parce que je voulais faire des films. Et puis on faisait de la physique et de la chimie photographique. Je me suis dit, mais où je suis tombée encore une fois dans une école? Parce que je sortais du lycée Émile Jacquemin, où je me suis enfuie, où c'était l'horreur absolue. Au premier rédaction, vous savez, c'était le lycée de la haute bourgeoisie belge. Hein. Et moi, je venais quand même de parents d'émigrés qui, à la place de dire j'avais su, si j'avais su, ils disaient si j'aurais su. Donc, j'avais ni le vocabulaire, il n'y avait pas de livre chez moi, il n'y avait pas de disque. Il y avait un autre type de culture et un autre type de sensibilité. Parce que je ne dis pas que mes parents étaient des grossiers personnages, loin de là.
Vous n'aviez pas les codes?
Pas ce type de culture-là, quoi, si vous voulez. Et tous ces gens connaissaient déjà le Parthénon, j'avais jamais entendu parler. Homère, tout ça, c'était pas mon monde. Moi, je connaissais Abraham, et Jacob,
mal,
et Isaac. Voilà, mais c'était pas mon monde, du tout. Et puis, ma mère, au bout d'un mois, elle se fait appeler en disant que j'étais insupportable. Et ma mère dit, mais elle est très gentille à la maison. Et qu'est-ce qu'il y a, pourquoi elle est si insupportable? Parce que quand on lui pose une question, elle regarde droit dans les yeux. Il fallait baisser la tête à l'époque quand on répondait. Ah oui, Steph. Et le directeur de la rue des Riches Clairs où j'allais avant, comme j'étais très bonne petite élève quand j'ai jusqu'à 12 ans, il a dit, il faut la mettre dans ce lycée, on vous la fera. Mais c'est-à-dire qu'on me fera, on me mettra dans le carcan de la bourgeoisie, quoi. Alors, ça n'a pas réussi.
Et à l'instant, André Delvaux ne vous a pas retenu?
Si, il m'a retenu, c'est-à-dire que... Oh non, non, mais je l'ai eu qu'une fois. Après, il est parti faire son film. Donc, on ne l'a plus jamais vu. La seule chose que j'ai bien aimée à l'Assas, c'était les cours d'Edmé Lagrange, qui donnait des cours de photo, mais aussi elle venait qu'une fois de temps en temps. Et puis au bout de 3 mois, moi j'en avais assez. On avait un type qui nous disait, pour faire un bon scénario, il faut un bon début, un bon milieu et une bonne fin. Mmh. Puis avec ça, on va loin.
Donc New York,
il faut non, d'abord je suis partie à Paris.
À Paris.
Oui. Et après...
La liberté à Paris? Vraiment trouver la liberté à Paris?
Non, c'était... Je pensais, vous avez entendu, petite
oui,
jeune fille.
L'Eldorado, comme ça, culturel.
Pour les francophones,
oui.
Qui voulaient écrire. C'était l'idée vraiment très romanesque et romantique de l'écrivain qui habite dans une chambre de bonne et qui écrit sa grande œuvre. Bon, ça a été très dur, Paris. Et puis après ça, là, je suis restée 2 ans, puis je suis revenue 1 an en Belgique. Et puis, je suis partie 3 mois. À Jérusalem. Parce que entre-temps, j'ai fait un film qui était très mauvais. Et donc, je me suis dit, c'est que je ne suis pas faite pour faire des films, donc peut-être qu'il faut que je fasse ce que mon père veut que je fasse. C'est-à-dire me marier, avoir des enfants si je suis nulle. Parce que
qui était un métier à part entière à l'époque.
Oui, enfin, il espérait quand même que j'allais travailler avec lui dans sa fabrique.
Ah oui,
quoi. Bon. Et donc, j'étais rejoindre un ami qui avait plus ou moins la même idée et qui était à Jérusalem. On est resté là 3 mois. Et c'était en 71. Et puis, au bout de 3 mois, je dis, moi, j'en peux plus d'Israël, de Jérusalem et tout ça. On part à New York, je sens que c'est là que ça se passe. Si tu as envie, tu viens avec moi. Donc, on est parti avec $50 en poche. Et là, j'ai fait 1000 petits métiers. Lui aussi, bon, on s'est séparés, évidemment. Et puis, voilà, ben là, j'ai découvert aussi le cinéma expérimental, la nouvelle danse, la nouvelle musique, enfin, plein de choses. Ça m'a... ouvert la tête, vraiment. Ça, ça a été comme une bouffée qui passe. Ça m'a ouvert, littéralement. Ça m'a permis d'exister mieux, d'exister, en fait, plus en accord avec moi-même.
Hommage à Chantal Akerman, avec les voix de Bardebar, Raya Bottinelli-Lindbergh et Chantal Akerman.
Je ne sais pas si vous le dites, mais moi, je vois filmer la vie ou filmer l'humanité, essayer de filmer... la vie, la vôtre, essayer de trouver quelque chose du quotidien à mettre en image.
Filmer le quotidien. Jeanne Dielman, c'est vraiment filmer le quotidien comme, si vous voulez. C'est, en général, tout ce que je filme dans le quotidien, tout ce que je filme dans Jeanne Dielman, c'est ce qui est coupé dans les autres films. C'est ce qui ne compte pas. C'est ce qui comptait pour moi. Ce film-là, c'est l'emblème de tout ce qu'on jette au panier en général. Mm-hmm. Et ou qu'on n'écrit même pas.
L'art même. Cinéma et art contemporain.
Oui, faire exister le quotidien, alors que les peintres le faisaient, par exemple en Belgique, enfin en Hollande, au XVe siècle, il y avait des femmes oui, je sais pas, qui repassaient, ou des trucs comme ça. Toute la peinture n'était pas que religieuse, parce que la peinture européenne est née de la religion. Hein. Mm-hmm. Parce que nous, les Juifs, on n'avait pas le droit de représenter. Et donc, à partir du moment où la peinture a commencé à naître, c'était pour représenter la Sainte Vierge, ou bien Jésus et tout ça. Et tout le cinéma, avec tous ces acteurs qu'on idolâtre, on en fait des dieux. C'est quelque chose de... Enfin, l'image pousse à l'idolâtrie, quoi.
Moi, j'entends des voix, c'est drôle, parce qu'on parle de Jeanne Dielman, mais on parle de Delphine Seyrig. Pour moi, c'est une voix. C'est une actrice avec
elle
une
voix. Elle entend que des voix.
Mais j'entends que des voix. Je suis vraiment... Mais c'est drôle, mais c'est quelque chose qui... J'entends la vôtre aussi.
Oui, bien sûr. Non, mais il y a sa voix, mais il y a ses gestes.
C'est non, mais juste parce que vous me parlez du face-à-face dans un cinéma non idolâtre, moi, je dirais un cinéma de la voix. C'est-à-dire un cinéma où on entend les mots, où on entend le son, où il y a une profération aussi au face-à-face, c'est-à-dire que le visage de l'autre, c'est aussi un visage parlant. Mm-hmm. J'entends ça, hein. J'entends à la fois ce regard et cette découverte du visage de l'autre, mais du visage de l'autre avec sa voix vraiment pris. Pas des faces muettes, donc des icônes, finalement.
Voilà, c'est pas iconique.
Voilà, c'est pas iconique non, du tout. Non, hein, non, c'est non, pas non. du tout iconique.
Ça, je suis d'accord.
Donc, il y a une
elle est intelligente, cette fille.
Mais je veux pas être mais trop dites, intelligente, mais dites, quand même.
Mais non, mais c'est formidable, dites-le voilà. comme ça. Je l'aurais pas dit
j'aimerais
aussi bien.
J'aimerais pas écrire sur vous, sur vous, sans sur vous, vous voyez. Je veux écrire... Et pouvoir parler avec vous. Donc j'essaye de voir si ma voix peut être avec la vôtre. Et si vous me dites que c'est, je ne suis pas complètement à côté de la plaque, ben ça me fait très plaisir. Voilà.
Non mais elle est trop moins intelligente. Je n'aurais pas pu le dire aussi bien.
Parce que je me suis dit, oh là 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 là, quel boulot, quel boulot, quel boulot, c'est formidable.
Et en fait, ça ne tourne pas. Mais en fait, c'est la manière dont j'ai filmé les mains.
Oui.
J'ai filmé les mots d'une certaine manière, comme ça. Et alors, ça donne cet effet avec deux fois. Ça donne l'effet que ça tourne. Mm-hmm. En fait, ça, c'est un effet.
C'est un effet.
Mais je voulais que ça tourne. Je voulais qu'on ait l'impression qu'on soit pris dans... Levé dans cette écriture qui tourne autour.
C'est des bras, hein, c'est des bras comme ça, et en même temps on marche dedans. C'est... Oui, non, mais j'ai vraiment beaucoup aimé.
Je suis sûre que vous allez penser à la mère juive.
Ah, ben bien sûr, mais moi la mère juive, je la vois partout, j'en ai une déjà. Alors j'en ai...
on n'arrive pas à s'en débarrasser.
Hein. Non, mais on la garde comme ça. Il faut faire avec. Hein. Alors marcher dans les traces, donc marcher dans les mots, et alors dans les mots des autres. Alors je me suis demandé. Si c'était une façon, parce que toute cette
mais
histoire
mais ça amène de... le carnet tout ça
oui toute cette histoire, la judaïté des origines, la transmission, des disparus, des êtres qui ne sont plus là, mais en même temps il faudrait quand même qu'on en dise quelque chose, ils ne sont pas là mais...
elle a tout dit.
Non, pas tout.
Ah pense. Si, elle est tout. Merveilleuse hein. Oui.
All images of evacuation, of walking in the snow with packages toward an unknown place, of faces and bodies placed one next to the other, of faces flickering between robust life, and the possibility of a death which would strike them down without their having asked for anything.
Son enthousiasme, quand elle parle, on sent qu'elle vit ce qu'elle dit.
Il y a quelque chose que j'avais envie de voir avec vous parce que j'ai adoré l'installation de l'Est. Alors, je me disais... Alors, je pensais à Sokourov, les films... Bon, vous, c'est Chantal Akerman, je sais, c'est pas Sokourov. Mais en même temps, j'avais l'Arche russe, non, je sais pas si vous voyez ce grand plan séquence. Parce que j'avais ces pièces... Je me disais, au fond, j'avais jamais pensé à ça. Je disais ça à Thierry, qu'en fait, le cadre, ce sont des chambres, ce sont toujours des petites rooms. Et je pensais, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur Strindberg, au Kammerspiel, aux pièces en chambre. L'idée, vraiment, que la pièce de théâtre, c'est une pièce. Mm-hmm. C'est un lieu. C'est d'abord ce carré de la scène, mais ça peut être le carré de l'image filmée. Hein. Mm-hmm. Et vous en faites des constellations comme ça, des triptyques, diptyques. Et du coup, ça donne un effet justement de spectre large, d'ouverture, et donc vous pouvez filmer l'humanité alors qu'on est sans arrêt, j'imagine, avec ce cadre et la caméra ou au théâtre, etc., toujours à se retrouver à se dire « mince, je fais encore un chant contre chant, oh, c'est encore un huis clos, c'est encore quelque chose ». Finalement, cette intimité, vous en parlez beaucoup, vous dites « c'est ça dont on ne parle pas », mais au fond, quelque part, ça nous limite, c'est tout le temps en train de nous mettre cette prison, du cadre, etc. Et là, vous arrivez à exploser le cadre en faisant et tout en mettant ce travelling qui avance, où on marche le film, hein, on marche le film, qui permet justement de vraiment exploser ces bordures. Et je me suis dit vraiment, il faut marcher le théâtre, parce que moi je travaille sur le théâtre, dans l'écriture du théâtre, il faut marcher le théâtre, marcher la scène, et vous marchez le cinéma, vous le portez, vous le menez. Finalement, vous avez trouvé une solution, mais bon, c'est toujours terrible de dire trouver une solution, mais finalement, ce truc-là, comme ça, et puis cet espace où finalement les êtres sont toujours là à se parler dans des cadres petits, serrés, et que finalement on n'a toujours que des individualités, et c'est la difficulté de quand on fait un cinéma, j'imagine, je pense à Kubrick, où il y a des grandes scènes de bataille, ou des grands trucs, et finalement on est obligé aussi de montrer des visages, et se faire de la foule, de la masse, tout en étant travaillé par le visage, là vous arrivez à en faire quelque chose. Parce qu'il y a tout le monde, c'est le film, c'est de l'humanité ouvrante, et pourtant, c'est pas de la masse, voilà. C'était ça, c'est ça. Et donc, c'est pas de la masse.
Magnifiquement dit, j'ai rien à rajouter.
Chantal, êtes-vous d'accord?
Oui, allez, oui, oui.
D'accord, c'est de l'Est.
Oui, d'Est, oui. C'est d'Est au bord de la fiction, ça
d'Est,
s'appelle.
D'Est.
D'Est au bord de la fiction.
L'art même, numéro 75. Cinéma et art contemporain. Avec Christine Jamard. Hommage à Thierry Zénot. Avec les voix de Agnès Varda, Muriel Andrin et Thierry Zénot. Hommage à Chantal Ackerman. Avec les voix de Bardebar, Raya Bottinet-Lindbergh et Chantal Ackerman. L'art même. Cinéma et art contemporain, par Thierry Genico. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.